technologie et leurs applications. Avec la venue de Madame Vautier, je remercie d'être là. Vous êtes aussi une récidiviste. Suffit de regarder dans notre panier nanotechnologie pour faire venir ces personnes qui ont accepté de se déplacer. Enfin, vous remercie encore beaucoup de jouer le jeu. C'est vraiment très gentil. Donc là, on est déjà rentré dans le vif du sujet, mais là, on va être dans les applications, puisqu'il s'agit des nanotechnologies, applications à la conception de nouveaux médicaments, par Christine Vautier, qui est directeur de recherche au CNRS, UMR CNRS 8612, Université Paris Sud 11, Châtenay-Malabry. Donc, vous êtes directeur de recherche, comme je viens de le dire. Vous avez reçu votre diplôme de doctorat de l'Université Strasbourg en 1986 en chimie des polymères. Et vous avez rejoint ensuite la faculté de pharmacie de l'Université de Paris Sud en 1987 comme chargée de recherche CNRS. Les recherches que vous menez actuellement, vous intéressez à la conception des nanoparticules polymères biodégradables destinées à améliorer l'efficacité des médicaments administrés par la voie orale ou par la voie intraveineuse. Les recherches menées par Christine Vautier sont plus particulièrement destinées à identifier les propriétés à conférer aux nanoparticules pour leur permettre d'améliorer le ciblage des principes actifs vers les sites cibles du traitement. Voilà, j'en termine là. On pourra encore dire beaucoup de choses sur vous. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être là. Et puis, merci à notre public fidèle et forcé, mais on est contente de vous voir. Donc, à tout à l'heure. Merci.
D'accord. Merci. Donc, merci beaucoup, Madame Bonafou, d'avoir pensé à moi pour venir faire une conférence générale, donc dans le cadre de vos journées de réflexion sur les nanotechnologies. Donc, effectivement, ma conférence par rapport à celle que vous avez eue ce matin, c'est une conférence qui va être sur un point, une des applications qui porte beaucoup d'espoir, hein, avec de grands potentiels dans le domaine de la mise en place de nouveaux traitements, et pas seulement, parce que je vais vous montrer quelques exemples où on sort un petit peu des traitements, mais toujours dans des applications dans le domaine de la médecine. Donc, le titre de ma présentation, c'est « Nanotechnologie, application à la conception de nouveaux médicaments ». Alors, je suis partie pour préparer mes diapositives sur le fait que vous étiez des écoles doctorales, donc un niveau d'études très supérieur. Et donc, dans le domaine scientifique, on parle beaucoup anglais. Je serai capable de vous faire, bien sûr, la conférence en anglais, mais je ne vais vous quand même pas pousser le vice jusque-là. Par contre, j'ai préparé toutes mes diapositives en anglais. Donc, voilà. Donc, pourquoi la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi a-t-on besoin de nouveaux médicaments? Alors, j'ai énuméré comme réponse deux causes qui paraissent très évidentes. La première, c'est que vous savez par le biais des médias que certains principes actifs sont à l'origine d'effets secondaires particulièrement sévères, et on rencontre ces effets sévères d'une façon plus systématique dans le cadre des traitements anticancéreux ou dans le cadre de traitements, par exemple, aux anti-infectieux, dans le cas de maladies sévères infectieuses. Donc, l'idée d'utiliser des nanotechnologies dans ce cas-là pour améliorer les traitements, les médicaments, c'est d'augmenter la sécurité de ces médicaments, notamment en augmentant la spécificité de distribution des molécules actives, donc en les ciblant vers l'endroit où ils sont actifs, où ils doivent agir, donc le site de la maladie. Donc pour ça, on a besoin, la molécule elle-même n'y arrive pas, c'est pour ça qu'on a les effets secondaires, et donc on a besoin de petits transporteurs pour amener ces molécules vers le site actif. Donc c'est une solution qui a été imaginée, et donc l'utilisation de ces transporteurs, et les transporteurs, bien entendu, on va les chercher dans les nanotechnologies. Une deuxième raison c'est vient du fait que on identifie de plus en plus les nouvelles molécules qui sont très efficaces in vitro, qui ont une activité très spécifique. Donc là, c'est aussi intéressant d'avoir ce genre de molécules justement pour mettre de côté les effets secondaires. Si on arrive à augmenter la spécificité des molécules, on va avoir moins d'effets secondaires. Le problème, c'est que ces molécules qui in vivo sont formidables posent énormément de problèmes pour être actives in vivo. Elles sont, on attend vraiment qu'elles soient très actives in vivo, mais on va voir qu'elles posent des problèmes au niveau de leur administration. Alors ces molécules qui sont ces nouvelles molécules candidates peuvent être des petites molécules. Et la plupart de ces nouvelles petites molécules ont des gros problèmes de solubilité. Or, vous savez que dans les fluides biologiques, vous êtes en milieu principalement aqueux. Donc, une molécule qui est peu soluble dans l'eau va avoir beaucoup de mal à diffuser. Et donc, on aura une faible biodisponibilité. Une autre catégorie de molécules très intéressante, c'est tout ce qui est issu des biotechnologies, les peptides. Les acides nucléiques, ce sont des molécules qui ont des cibles biologiques spécifiques extrêmement précises. Donc, on augmente considérablement la spécificité des traitements. Elles sont actives à des concentrations extrêmement faibles. Le souci avec ces molécules, c'est que ce sont des molécules très hydrophiles, avec des masses molaires importantes, et qu'elles sont in vivo dans les fluides la plupart des fluides biologiques, très instables. Elles sont l'objet de dégradations enzymatiques. Et donc, par exemple, pour des acides nucléiques, vous avez, en l'espace de 2 minutes, vous perdez la totalité de l'acide nucléique dans le sang. Donc, ça pose également un problème pour leur biodisponibilité au niveau du site d'action. Donc, il faut trouver des solutions pour, d'une part, les protéger contre la dégradation, et d'autre part, là aussi, les aider à passer les barrières biologiques et les aider à atteindre le site actif à partir d'un site d'administration. Alors, au niveau des sites d'administration dans l'industrie pharmaceutique, celui qui est le privilégié en première intention, c'est la voie orale, parce que c'est plus facile pour vous de prendre un comprimé. C'est également plus au niveau sécurité, c'est mieux aussi. Il y a énormément de principes actifs. Quand par la voie orale ça ne marche pas, on va les mettre par la voie intraveineuse. Donc là, on s'affranchit d'une première barrière qui est l'absorption intestinale. Donc il y a aussi beaucoup de médicaments qui sont développés pour être administrés par voie intraveineuse. Et donc ces voies d'administration, donc vous avez votre site d'administration et votre principe actif. Ensuite, il faut qu'il trouve son chemin grâce maintenant à ce qu'on utilise comme petit véhicule, jusqu'au site actif. Alors, quel est le cahier des charges qu'on peut définir pour ces transporteurs ? Il doit, bien entendu, comme je viens de vous le dire, passer à travers les barrières biologiques. Alors vous en avez plusieurs types. Si vous avez la voie orale, la voie pulmonaire, vous avez des épithéliums à traverser. Ensuite, vous avez des endothéliums. Alors, vous avez des endothéliums au niveau des barrières qui vont absorber les principes actifs. Et vous avez des endothéliums, ensuite, une fois que le principe actif est dans la circulation sanguine, pour en ressortir et aller atteindre les cellules cibles. Ensuite, quand vous êtes dans le tissu, vous avez une autre barrière, souvent, qui est la membrane cellulaire. Donc le principe actif doit rentrer dans la cellule pour atteindre sa cible biologique, la plupart du temps. Et enfin, vous avez d'autres types de barrières, comme la barrière hémato-encéphalique, qui est en fait la barrière qui sépare le sang du reste du cerveau, qui est pratiquement imperméable. C'est fait exprès, c'est toute l'évolution qui l'a construite comme ça. Mais quand on souhaite administrer un principe actif qui doit agir au niveau cérébral, eh bien, il faut aussi arriver à passer ce genre de barrière. Donc on a toute cette problématique. Notre véhicule doit aider le principe actif à passer à travers la barrière. Ensuite, Une autre caractéristique, c'est qu'il doit pouvoir diffuser facilement dans les milieux biologiques. Alors, dans le sang, c'est fluide, on peut envisager qu'il diffuse, mais vous avez les capillaires sanguins qui sont très fins, et donc il faut pas qu'ils restent bloqués par le diamètre des capillaires sanguins les plus fins. Ensuite, dans les tissus, il faut aussi qu'il arrive à circuler entre les cellules pour irriguer les tissus. Alors, si on regarde dans la vie courante, déjà dans la nature, ce qui existe, on peut voir que dans votre organisme, vous avez les protéines. Certaines protéines servent de transport pour des nutriments. Vous avez les lipoprotéines, qui sont en fait des objets tout à fait naturels que vous avez également dans le sang, qui servent de véhicule pour ce qui est lipidique. Et bon, les virus, ce sont des agents pathogènes, c'est sûr, mais si vous réfléchissez un petit peu au-delà du fait que c'est un agent pathogène, c'est un transporteur d'acide nucléique. Il transporte son génome et il est capable, lui, de transporter son génome de façon très spécifique jusqu'à la cible qu'il cherche à atteindre. Donc vous voyez que dans la nature, on a déjà des objets qui transportent des molécules. Donc certaines approches de vectorisation se basent sur l'utilisation de ces systèmes. On peut aussi utiliser des systèmes construits de toutes parts, et c'est ce que nous faisons à Châtenay. Donc ce que l'on peut remarquer aussi, c'est par rapport à la taille de ces systèmes, on est dans le domaine des nanomatériaux. On arrive avec les virus à quelques centaines de nanomètres, mais on est tout à fait dans ce domaine des nanomatériaux, ce qui fait penser effectivement que l'utilisation des nanotechnologies peut nous être utile. Donc voilà, on a maintenant un domaine de taille pour nos petits véhicules. En général, on admet dans le domaine de la pharmacie que des nanotechnologies inférieures à une taille de 1 micromètre sont des nanocarriers, donc des nanotransporteurs qui peuvent être utilisés pour les médicaments. L'autre aspect, c'est d'arriver à transporter le principe actif jusqu'à la cible. Donc là, on doit rajouter à notre transporteur quelque chose qui va lui permettre de contrôler la biodistribution à l'intérieur de l'organisme. Et c'est ce que l'on voit régulièrement apparaître comme un genre de code postal, coller une adresse sur le transporteur pour qu'il trouve la cellule cible. Alors tout ça, bien sûr, c'est imagé avec des mots un petit peu de la vie de tous les jours. Il faut transformer tout ça en modèle biologique, donc en adresse biologique. Et c'est toute la difficulté et c'est tout le challenge que l'on a. Alors, actuellement, voilà le genre de nanotechnologie, donc des objets artificiels que l'on est capable de fabriquer de toutes pièces, que l'on a conçus d'une façon large, hein, pas seulement nous, mais voilà, on a donc, vous voyez, tout un panel d'objets. Pourquoi est-ce qu'on a autant de structures différentes et de compositions également différentes de base? C'est simplement parce que vous avez des principes actifs qui sont lipophiles, d'autres qui sont hydrophiles. Il y en a qui sont des petites molécules, il y en a qui sont des grandes molécules. Et donc, il nous faut une grande diversité d'objets pour pouvoir s'occuper de toutes ces molécules d'intérêt. Donc vous voyez ici toute une gamme de systèmes obtenus à partir de polymères ou de copolymères. Donc ils peuvent être structurés, ils peuvent être vésiculaires, ils peuvent être matriciels. Et ici vous avez des systèmes à base de lipides. En commun, donc tous ces objets ont une petite taille. Ils peuvent donc circuler dans la circulation sanguine. Ils peuvent diffuser dans les tissus et, pourquoi pas, arriver à cibler le principe actif. Donc, associé à un principe actif, on espère pouvoir optimiser la délivrance de ce principe actif en contrôlant la biodistribution. Alors, additionné à ces premiers objets, depuis une quinzaine d'années à peu près, on s'intéresse aussi beaucoup à des colloïdes métalliques, notamment tout ce qui est ferrofluide ou particules d'or. Et l'intérêt dans ce cas-là, c'est toujours, bien sûr, la petite taille. Mais lorsqu'on utilise ces objets de colloïdes métalliques, ont des propriétés particulières et notamment, ils combinés à des méthodes physiques, notamment d'irradiation, il y a possibilité soit de les utiliser pour potentialiser un traitement qui est déjà basé sur une approche d'irradiation, ou on peut également les utiliser comme agents de contraste pour faire du diagnostic in vivo avec des méthodes d'imagerie comme la résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique. Donc vous voyez qu'au-delà de l'intérêt pour contrôler la délivrance de principes actifs, on a là d'autres possibilités, une possibilité de développer vraiment des nouveaux traitements, des nouvelles méthodologies thérapeutiques et d'utiliser aussi ces systèmes, ces petites nanotechnologies pour faire du diagnostic. Alors voyons un petit peu plus dans le détail au niveau des traitements, quelques exemples. Donc j'ai choisi de vous développer, de vous montrer quels sont les potentiels qu'on en attend de ces nanotechnologies pour le cancer, dans le cas d'infections, de maladies infectieuses et pour la délivrance de principes actifs au niveau du cerveau. Alors clairement, dans les traitements anticancéreux, ce qu'on souhaite, c'est d'arriver dans un premier temps à réduire considérablement la toxicité des principes actifs qui sont couramment utilisés, simplement en ayant un meilleur ciblage vers les tumeurs. Alors vous avez ici sur cette diapositive une molécule qui est très utilisée en cancérologie, c'est la doxorubicine. Dans les solutions qui sont administrées chez le patient, cette doxorubicine va se distribuer de façon très rapide à des concentrations qui deviennent toxiques pour le cœur. Et donc les cliniciens sont obligés d'arrêter le traitement du fait que le cœur commence à souffrir. Lorsque l'on associe cette doxorubicine à des nanoparticules, on voit que l'on peut avoir une modification totale de la biodistribution et notamment avec certains types de nanoparticules arriver à concentrer le principe actif au niveau du foie. Donc on peut cibler des concentrations très importantes de principes actifs au niveau du foie. Alors ce genre de résultat, ça fait l'objet d'essais cliniques. L'autre bénéfice de ces nanoparticules, c'est qu'elles peuvent améliorer la sensibilité de cellules au traitement anticancéreux. Notamment, vous avez un cancer hépatique qui est un hépatome, un carcinome hépatique. Il est excessivement résistant à beaucoup de traitements. Et donc, vous pouvez voir ici sur ces courbes de cytotoxicité, donc on mesure la toxicité du principe actif à différentes concentrations, ici concentration croissante, sur la viabilité des cellules. C'est une expérience qui se fait in vitro dans un tube à essai. Vous pouvez voir que par rapport au principe actif libre, donc il y a une concentration cytotoxique assez élevée, on est capable de réduire cette concentration de cytotoxicité lorsque la molécule est associée aux nanoparticules, ce qui veut dire que la cellule devient plus sensible au traitement. Donc on arrive à augmenter la sensibilité de ces cellules au traitement par ce biais, en même temps qu'on va arriver à cibler de façon meilleure le principe actif vers le foie. Donc comme je vous disais, ces nanoparticules bien spécifiques font l'objet d'un essai clinique qui est menée en France par une société qui est installée à Paris. Vous avez le nom de la société ici. Et vous voyez que les premiers résultats de ces essais cliniques permettent de montrer que le temps de survie des patients, ce sont toujours des patients malheureusement qui sont en très mauvais état, vous voyez que le temps de survie avec le traitement nanoparticulaire a été plus que doublé par rapport au meilleur traitement qui existait jusqu'à présent pour ces patients-là et pour cette pathologie. Et d'une manière générale, ce qui est aussi très important, ce n'est pas le tout de prolonger la survie. Il faut aussi considérer le confort des malades. D'une manière générale, ces patients-là vivaient mieux que les patients traités par chimio-embolisation. Donc, un bénéfice sur les deux plans. D'un côté, les patients supportent mieux leur traitement et ont une survie prolongée. Et d'autre part, ils ont un confort de vie qui est meilleur. Donc vous avez ici des photos d'IRM, donc des clichés d'IRM sur un des patients enrôlés dans ces essais cliniques. Ici, donc, avant le traitement, avec une très forte tumeur ici, et sur l'image de droite, vous avez le même patient 4 semaines après l'administration donc, de ces nanoparticules, et clairement, la tumeur commence à se nécroser avec une diminution de son volume. Donc c'est ce qui explique en fait les résultats très encourageants au niveau de l'efficacité de ce traitement. Alors actuellement, donc ce que je vous ai montré, ce sont des essais cliniques qui sont en cours. Ils commencent une phase 3 actuellement. Ces essais cliniques se font en plusieurs phases. Donc là, on arrive sur une phase déjà où ils vont considérer une petite centaine de patients. Mais il faut savoir qu'il y a déjà des molécules, des médicaments à base de nanotechnologie qui sont utilisés en clinique depuis 1995, ici la doxorubicine, et l'abraxane, qui est une autre spécialité, là c'est le paclitaxel, c'est un autre anticancéreux. Vous voyez, là, son introduction est beaucoup plus récente, mais ce sont des médicaments qui commencent à arriver tout doucement sur les marchés. Alors, autre molécule anticancéreuse, alors là, on passe sur des molécules de biotechnologie, les acides nucléiques. Ces molécules ont un intérêt dans le sens où elles sont excessivement spécifiques au niveau de leur activité biologique. Elles vont spécifiquement réduire l'expression d'un gène. Et donc, elles vont concerner toutes les maladies pour lesquelles on identifie qu'elles sont responsables ou causées par l'expression anormale et anarchique d'un gène déterminé. Donc, si on connaît ce gène, on peut concevoir des acides nucléiques qui vont pouvoir cibler ce gène et éviter son expression. Le problème, c'est que je vous ai dit avec ces molécules, c'est qu'elles sont très instables en milieu biologique et elles ne passent pas les barrières biologiques. Or, il faut absolument qu'elles arrivent à rentrer à l'intérieur de la cellule cible pour trouver l'acide nucléique messager qu'elles vont devoir éteindre. Alors, vous voyez ici sur cette diapositive que les nanoparticules, justement, permettent à ces molécules, que ce soit des simples brins oligonucléotides antisense ou siRNA, Small Interfering RNA, de rentrer à l'intérieur des cellules et donc une grande chance qu'elles puissent éteindre l'expression du gène pour lequel elles ont été conçues. Stabilité, là il s'agit d'une expérience d'administration directement dans une tumeur chez une souris. Vous voyez que le siRNA libre, au bout de 2 jours, on n'en retrouve pratiquement plus, alors que le siRNA qui a été administré sous la forme de nanoparticules, au bout de 2 jours, on a quand même toujours encore de ce siRNA en quantité assez abondante, ce qui permet de montrer qu'il est fortement stabilisé par et protégé de l'action des enzymes de dégradation lorsqu'il est associé à ces nanoparticules. Alors voyons voir maintenant un traitement réel. Donc là, on a administré les nanoparticules par voie intraveineuse à la souris et qui portait une tumeur. Vous voyez que tous les contrôles que nous avons faits, ce sont les 4 souris de gauche, la tumeur est devenue énorme. Et même avec le siRNA qui normalement doit éteindre l'expression du gène de l'oncogène. Et donc là, il n'a pas été efficace, Par contre, lorsqu'il a été administré sous forme de nanoparticules, donc associé aux nanoparticules, vous voyez là, la croissance de la tumeur est très faible, pratiquement nulle, et on voit bien aussi que la tumeur n'a pas grandi lorsque l'on regarde directement sur le flanc de la souris. Donc on arrive à contrôler effectivement la croissance de la tumeur à partir d'une injection intraveineuse de ce genre de molécules lorsqu'elle est associée à des nanoparticules. Donc le double bénéfice, donc vous avez une protection contre la dégradation entre le site d'administration qui était une veine et la tumeur. Donc cet acide nucléique a été transporté de façon efficace par nos nanoparticules. Et pour être actif au niveau de la tumeur, il a même pu, grâce à ces nanoparticules, rentrer dans les cellules tout en gardant son activité biologique. Donc là, nous avons une biodistribution justement de ces nanoparticules qui nous permet effectivement de vérifier qu'après l'administration intraveineuse, donc ici c'était une administration intraveineuse par la queue, on a bien une accumulation des nanoparticules dans la tumeur. Et c'est ce qui explique aussi notre activité biologique que l'on a pu mettre en évidence. Alors, autre méthode de traitement, cette fois-ci, qui est toujours dans le domaine du cancer. Ce sont des nouvelles méthodes qui tentent à apparaître pour enlever la tumeur. Donc, vous savez que souvent, les chirurgiens ils sont obligés d'ouvrir et puis aller chercher la tumeur avec le scalpel. Donc, des nouvelles technologies sont en cours de mise en place pour détruire les tumeurs in situ à l'aide d'un effet hyperthermique. Alors, l'effet hyperthermique peut être produit par un rayonnement, tout simplement, mais il a été montré qu'en rajoutant des nanoparticules métalliques du type nanoparticules d'or, d'oxyde de fer ou de platine, ou des nanotubes de carbone d'une certaine taille, ou des particules composites aussi, des nanoparticules qui combineraient le nanotube de carbone et une fine couche d'or, par exemple, en surface. En injectant ce genre d'outils dans les tumeurs, et ensuite en irradiant, donc en utilisant soit un champ magnétique, soit un éclairement par une source de proche infrarouge, on pouvait potentialiser l'effet de cette irradiation du fait de la présence des nanoparticules. Ce qui fait que l'hyperthermie produite va tuer les cellules environnantes de façon beaucoup plus efficace, avec des degrés d'irradiation, des quantités de doses d'irradiation de jusqu'à 100 fois inférieures à celles qui sont nécessaires en temps normal. En plus, les nanoparticules vont permettre de bien focaliser, donc de garder, de vraiment bien concentrer l'effet du faisceau de façon très locale. Donc, ça permet également de préserver le tissu qui est autour. Donc, ce sont des nouvelles méthodes qui sont en cours d'études. Et il y a également déjà dans ce domaine-là des essais cliniques qui sont menés en Allemagne avec un produit qui s'appelle Nanotherm, et ce sont des petites particules magnétiques, vous voyez, d'une taille d'environ 12 nanomètres. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, sans avoir recours à la chirurgie, détruire la tumeur en place, donc in situ. Alors, maladie infectieuse. Là aussi, on va chercher à diminuer la toxicité des traitements et on va également chercher à améliorer l'efficacité des traitements par rapport à des souches d'infection, des souches résistantes. Je vais surtout vous parler d'un exemple de réduction de la toxicité des traitements qui est assez spectaculaire. Donc, vous avez ici une molécule qui s'appelle l'amphotéricine B, qui est très active sur des infections à Leishmania. Vous avez ici une échelle de toxicité. Donc, plus vous pouvez en administrer, moins le produit est toxique. Hein. Vous voyez que les formulations conventionnelles, ici, sont tout en bas de cette échelle. Ça veut dire qu'elles sont excessivement toxiques. Donc il y a différentes formulations qui ont été essayées, des suspensions colloïdales, des complexes avec des lipides, et vous avez ici des liposomes. Donc les liposomes, ce sont des nanotechnologies déjà assez élaborées, fabriquées à partir de lipides. Vous voyez qu'en fond, entre la concentration toxique avec la formulation conventionnelle et la formulation de liposomes, vous avez un facteur de 50 à 70. Ce qui veut dire qu'on peut traiter avec le liposome avec des doses plus fortes. Donc on peut être plus efficace également pour frapper sur l'agent infectieux. Sur ces courbes de survie, donc ici vous avez le temps et le nombre d'animaux qui ont survécu à l'infection à Cryptococcus, donc ça c'est un agent infectieux. Le traitement, il a toujours été à la même dose pour toutes les courbes. Vous voyez ici la courbe des animaux non traités, donc ça c'est le témoin. Vous voyez qu'il arrive à les animaux meurent de toute façon de cette infection. Il faut à peu près 28 jours pour que tous les animaux soient morts. Mais vous voyez que ce traitement-là, par une solution conventionnelle de principe actif, elle est plus toxique que si on laisse les animaux simplement vivre leur infection par les voies de façon naturelle. Donc là, on est typiquement dans le cas où le traitement est effectivement très toxique et a des conséquences très sévères pour le patient. La même quantité de principes actifs administrés sous forme de liposome, vous voyez que là, par contre, on est dans des conditions très intéressantes parce qu'on commence à augmenter la survie. Et un autre type de formulation, là, ce sont des nanosphères solides fabriquées à partir de lipides. Là, on arrive à avoir un certain taux de survie à long terme. Donc, vous voyez, par le biais de la formulation qui permet un meilleur ciblage et une meilleure efficacité, on peut améliorer l'efficacité des traitements. Donc, sur la base, bon, ce sont des résultats ensuite qui ont été repris chez l'homme sur certains types d'infections. Donc, sur la base de ce concept, un médicament d'amphotéricine B formulé dans des liposomes et commercialisé est utilisé depuis 1997. Et la tendance actuelle, c'est d'étendre les indications de ce traitement à de nombreuses infections. Alors, ce sont toujours des infections sévères, mais ce sont des médicaments qui permettent d'améliorer le traitement en réduisant le nombre d'injections, en augmentant le confort du malade d'une manière générale et en réduisant considérablement les effets secondaires. Vous avez ensuite la délivrance au niveau du cerveau. Donc, comme je vous ai dit, le cerveau, il y a une barrière hémato-encéphalique qui est particulièrement imperméable. Donc, il y a éventuellement plusieurs façons de pouvoir faire passer des principes actifs. C'est faire des chocs un petit peu durs pour que cette barrière-là s'ouvre, ou faire des injections intracérébrales. Bon, ce sont des méthodes qui sont assez invasives, et il n'y a pas que votre molécule qui passe, il y a plein d'autres choses qui passent en même temps, ce qui n'est pas forcément qui peut amener à des toxicités. Donc, des méthodes non invasives, c'est de fabriquer des nouvelles molécules, donc des prodrogues lipophiles. Ça, ce sont des approches purement chimiques, et d'avoir recours à des nanomatériaux. Donc, on a actuellement quelques nanoparticules qui, par des effets, des interactions avec des protéines sériques bien particulières, arrivent à rentrer dans le cerveau et à amener des anticancéreux ou d'autres types d'agents, des peptides, grâce à une translocation par un phénomène médié par des récepteurs qui sont spécifiques de la barrière hémato-encéphalique. La prévention des maladies infectieuses. Donc, je vous ai dit qu'on peut donc mettre des principes actifs, mais pourquoi pas associer à ces systèmes des antigènes. Et dans ce cas-là, on va formuler des vaccins. Donc il existe déjà un certain nombre de vaccins qui sont utilisés chez l'homme, celui-là, ou chez les animaux, c'est celui-là, à base de nanotechnologie. Donc l'idée de la formulation de ces vaccins, c'est d'essayer de reproduire la présentation des antigènes que vous avez à la surface d'un virus, ici un virus enveloppé, comme par exemple le virus de la grippe ou le virus de l'hépatite. Et c'est justement ce genre de vaccinations qui ont été développées et qui sont utilisées chaque année depuis plusieurs années. Ou ici, ce sont des virus à capside. Donc ce sont des outils pour présenter correctement un antigène et amener à une vaccination efficace. Diagnostic, donc je vous ai parlé des colloïdes métalliques, j'y reviens là dans un domaine de diagnostic. Il y a un certain nombre de spécialités à base d'oxyde de fer colloïdal qui sont utilisées comme agents de contraste pour l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Donc je ne vais pas vous faire un long discours, je vais juste vous montrer des images d'IRM qui ont été publiées dans un article il y a déjà, vous voyez, quelques années maintenant, puisque c'était en 98, où vous avez ici le temps zéro, donc l'image avant l'administration par voie intraveineuse de cet agent de contraste, et vous avez 240 secondes, l'image est complètement différente. Vous voyez qu'il y a des contrastes qui apparaissent beaucoup mieux. Donc ici, la vague image de tumeur, hein, ici, elle paraît évidente. Donc ces agents de contraste permettent de générer des images avec un meilleur contraste, de pouvoir éventuellement mettre en évidence des tumeurs beaucoup plus petites, donc un diagnostic plus précoce. Et vous savez que dans le domaine du cancer, un diagnostic plus précoce est aussi synonyme d'un traitement, de possibilité de traitement, de possibilité de survie pour un patient. Donc, en conclusion, je voulais vous faire passer comme message que les nanotechnologies dans le domaine dans un domaine des applications pour concevoir des nouveaux médicaments. C'est quelque chose effectivement de très excitant, avec beaucoup d'espoir. On a des possibilités d'arriver à diminuer la toxicité de certains principes actifs en modifiant leur pharmacocinétique, en modifiant la biodistribution du principe actif. Et maintenant, on a des outils qui permettent de cibler de façon précise un principe actif vers des cellules vraiment bien définies. Un autre grand espoir, c'est du fait de leur possibilité de protéger des molécules fragiles comme des peptides ou des acides nucléiques. C'est de pouvoir arriver à développer ces molécules et donc mettre en place des nouveaux traitements qui seront efficaces, qui seront spécifiques. Et enfin, ces systèmes permettent d'augmenter le passage des barrières. Donc, ça ouvre un champ pour justement ce transport de principes actifs. On espère de façon contrôlée dans le futur. Il y a énormément de choses à comprendre pour y arriver, mais ça progresse doucement. Donc, il y a une centaine d'années, Paul Ehrlich, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1908, avait émis un concept de boulet magique. Donc, il a commencé à essayer de travailler dans ce sens-là à l'époque. Bien entendu, je pense que l'arrivée du microscope électronique dans les années 50-60, et ensuite l'arrivée des premières nanotechnologies à base des liposomes au milieu des années 60 et à base de polymères également à la fin des années 60, permettent de dire qu'on avance vers le développement de ces outils et la concrétisation de ce boulet magique. Aussi, vous pouvez voir que j'ai traité très peu d'exemples parce que dans le domaine des applications médicales, on voit des ouvertures pratiquement dans énormément de maladies, énormément de possibilités potentielles, Donc j'ai traité un peu les infections sévères, le cancer, le diagnostic, les vaccinations, mais vous avez également des tas d'espoirs pour les maladies du système nerveux central, les maladies métaboliques, les maladies auto-immunes, la gestion des rejets de greffe. Donc pratiquement tous les champs sont touchés par cette révolution. Et enfin, je terminerai par le fait qu'on a des objets très simples actuellement. Et là aussi, dans notre domaine, on tente à vouloir complexifier les systèmes en leur donnant plusieurs fonctionnalités, notamment en combinant les potentialités de diagnostic et traitement en un seul objet. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Bon, c'est une autre vision des nanotechnologies, plus optimiste. Est-ce que c'est une vision... Première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un jour on arrivera, grâce aux nanotechnologies, à guérir du cancer ? C'est ce que la question que poserait un public plutôt naïf. Et quelle suite à donner à tout ça ? Est-ce qu'on est dans un monde futuriste ou est-ce que les applications sont pour bientôt ?
Il y a déjà des choses qui existent, donc on peut dire qu'on a déjà un pied dedans. C'est vrai que les cancers, c'est quelque chose aussi de très vaste. Donc dire qu'on va guérir tous les cancers, c'est peut-être ambitieux, mais il y a quand même déjà des choses qui existent. Donc la preuve de concept est là et on a beaucoup d'espoir d'améliorer considérablement les choses.
Qui a levé la main ? Bonjour, je vous dis merci pour cet exposé, premièrement. J'aimerais savoir les nanoparticules que vous avez utilisées. Est-ce que vous les avez utilisées comme vecteurs ? Et s'ils ont été utilisés comme vecteurs, quelles sont les propriétés qui permettent de ces nanoparticules-là qui permettent de cibler la cellule ?
Alors, les nanoparticules, tout ce qui est nanotechnologie qu'on développe pour faire des médicaments, bien entendu, on a un cahier des charges qui est très rigoureux, puisque ces nanoparticules en elles-mêmes, bien entendu, on ne veut pas qu'elles soient toxiques. Il faut qu'elles soient le plus inertes possible par rapport à l'organisme biologique. L'autre aspect du cahier des charges, donc il faut qu'elles soient complètement au niveau sécurité, il faut être au maximum. L'autre aspect, c'est qu'il faut qu'elles puissent être éliminées de l'organisme. Donc, on fait souvent appel à des systèmes que l'organisme va savoir dégrader et éliminer. Donc, on a une très forte contrainte sur la composition de ces systèmes. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, on a une contrainte de taille, comme je vous ai dit. Et les contraintes de taille, elles peuvent également elles sont déjà là pour la navigation au sein de la circulation sanguine, mais elles peuvent également être là, ces contraintes de taille, par exemple, si on veut sortir du compartiment sanguin, on peut avoir une contrainte de taille qu'il faut être en dessous d'une certaine dimension pour passer à travers des fénestrations dans des épithéliums fénestrés. Donc vous pouvez en plus, on sait qu'une nanoparticule peut naviguer dans la circulation sanguine sans trop de problèmes quand elle a 300 nanomètres, à condition qu'elle ait bien tous les outils à sa surface pour lui permettre de naviguer. Mais ensuite, si on veut qu'elle sorte du compartiment sanguin, il faudra peut-être être seulement à 50 nanomètres. Donc il y a une contrainte supplémentaire. Après, pour cibler une cellule particulière... Là, on va équiper les nanoparticules avec des anticorps ou des ligands qui vont reconnaître à la surface de la cellule cible un récepteur dont on sait que cette cellule cible a à la surface de façon spécifique. Alors, les cellules cancéreuses, elles ont la propriété souvent d'exprimer des récepteurs particuliers. Et donc, on essaye au maximum de connaître ces récepteurs et d'avoir le ligand qui va permettre de les reconnaître. Et ensuite, on utilise ce ligand pour équiper nos nanoparticules pour faire le ciblage. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, c'est tout un équilibre. La conception de la particule est tout un équilibre.
Ok, mais est-ce que vous avez utilisé ces ligands accompagnés du médicament sans les nanoparticules.
Le ligand sans les nanoparticules.
Oui, c'est-à-dire le ligand avec le médicament sans les nanoparticules.
Alors, il y a des approches, qui font appel effectivement à ce concept, hein, où effectivement, il y a, bon, nous, on a une approche qui est très orientée sur ces vecteurs particulaires, polymères, conçus à partir de polymères ou de liposomes, mais il existe toute une autre approche qui consiste effectivement à accrocher un principe actif soit directement à un anticorps, mais bon, là vous avez une molécule active pour un anticorps, hein, donc bon, il y a le problème, est-ce que ça vaut le coup de cibler qu'une seule molécule avec un seul anticorps. Il y a une autre approche qui consiste à concevoir des polymères, hein, sur lesquels on a effectivement le ligand et on a plusieurs molécules actives accroché, et donc c'est en fait un genre de macromolécule soluble qui va transporter le principe actif vers la cible avec un élément de reconnaissance de la cible. Il y a plusieurs approches dans le domaine de la vectorisation.
Bonjour, merci pour votre exposé. J'avais une question notamment sur les nanotubes de carbone qui seront introduits pour les traitements par hyperthermie. Est-ce que l'organisme peut les éliminer?
Alors, les traitements par hyperthermie, c'est le tout début. En fait, les traitements par hyperthermie, ils partent du principe d'administrer une première fois l'agent qui va permettre de potentialiser l'effet de l'irradiation. Donc, ça peut être des petites particules d'or, des petites particules d'oxyde de fer. Ça peut être effectivement des petits nanotubes de carbone avec des dimensions bien, bien caractérisées. L'idée, c'est que ça reste en place et qu'on puisse faire plusieurs fois cette irradiation. Et il est vrai que pour le moment, l'objet a plutôt tendance à rester dans l'organisme qu'à être éliminé. Donc ensuite, je ne sais pas quels sont les... Je ne connais pas assez le domaine. Je sais seulement que, bon, souvent, ce sont quand même des traitements qui sont utilisés pour le moment sur des pathologies comme des glioblastomes, donc ce sont des cancers au niveau cérébral qui sont très graves avec des patients qui sont en phase terminale. Donc, bon, si vous avez des petites particules d'oxyde de fer ou des nanotubes de carbone qui restent peut-être 2 ans et puis...
Donc pour le moment, on n'a pas déterminé le seuil de toxicité de ces nanoparticules.
En fait, il y a des seuils de tolérance quand même, puisque la personne arrive à bien les tolérer le temps de sa durée de vie, qui est assez courte en général. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de recul sur ces objets-là.
Très bien, merci.
Il faut voir qu'il y a certaines pathologies qui sont concernées par ces techniques pour l'instant, où vous avez des patients, vous avez vu sur l'essai clinique avec les nanoparticules de doxorubicine. Le meilleur traitement, c'est 15 mois de survie. Bon, là, avec les nanoparticules, on arrive à 30 mois. Mais pour l'instant, ce sont, sont quand même des technologies qui sont évaluées sur des patients qui ont des espérances de vie assez courtes.
Une autre question. Oui, bonjour. Dans le premier exposé, on avait parlé de nanorobots qui pourraient passer dans les veines, etc. Et à quelle avancée on est de ça? C'est juste du projet ou...
Je pense qu'il y a des gens effectivement qui travaillent dessus, parce que bon, quand on va vers les systèmes multifonctionnels, c'est un petit peu ce qu'on voit au loin arriver, mais on y est. Enfin, à mon avis, on a encore beaucoup de travail, mais bon, on a des potentialités pour y arriver. Je pense que si on n'avait pas la contrainte de la biocompatibilité, biodégradabilité, toxicité, on serait plus avancé.
Une question plus pratique, je me posais le coup de ces traitements, sachant que les traitements pour le cancer sont déjà très chers. Et si on va vers un progrès de nos sociétés plutôt occidentales, est-ce qu'on risque pas, est-ce qu'on fait déjà une fracture nord-sud par rapport à l'accès à ces médicaments?
Alors, il y a beaucoup de réflexions dans ce sens-là. Et ça va même plus loin parce que est-ce que nous, on sera capable de supporter les coûts de ce traitement ? Donc c'est au-delà d'une fracture nord-sud, c'est également, on est en train de se poser la question. Alors il y a peut-être un espoir hein, par rapport à ces traitements, c'est si on regarde ce qui se passe dans le domaine des traitements anti-infectieux qu'ils ont mis en place avec les liposomes d'amphotéricine B pour les leishmanios. Faut voir que ces traitements sont efficaces hein, en un nombre d'administrations beaucoup plus faible, hein, donc la quantité de principes actifs à administrer est plus faible. Donc il y a un coût réduit par rapport à la juste si on voit sur le principe actif. Les formulations conventionnelles sont administrées en milieu hospitalier sous forme de perfusion. Donc il y a une hospitalisation qui est prolongée par le fait qu'il y a énormément d'effets secondaires à gérer et des effets secondaires graves hein, qui peuvent amener à des patients qui ensuite ont des problèmes rénaux et nécessitent des dialyses rénales. Donc ça a aussi un coût énorme. Et donc, ce que l'on voit avec l'ambisome, l'exemple de l'ambisome avec un recul de plus de 15 ans maintenant, c'est qu'ils ont tendance à élargir le nombre d'indications, donc le nombre de maladies qui pourraient être concernées par ce traitement, et à pousser à ce qu'il soit utilisé plus, parce qu'en fait, en prenant en compte l'ensemble des coûts, finalement, l'injection d'ambisome devient moins chère que le traitement normal. Donc, c'est sûr qu'actuellement, ces traitements semblent avoir un coût énorme, mais peut-être au bout du compte, ils deviendront quand même moins chers. Mais ce sont des techniques qui arrivent, et des techniques qui arrivent, c'est toujours cher au début.
Bonjour. En fait, ma question, c'est par rapport à la libération du principe actif. Une fois libéré, quel est ou bien quel sera le devenir de ces nanoparticules dans le grand complexe du système immunitaire? Et ensuite, au niveau du cerveau, on sait que la barrière hémato-encéphalique, si sa composition est telle, mais une fois qu'on booste cette composition pour faire pénétrer quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas un autre danger que vous, bon, que les chercheurs, et est-ce que ça a été évalué?
Alors, bon, comme, encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand on veut aller dans le cerveau, c'est parce que ben, y a un glioblastome avec un traitement d'un patient qui, bon, voilà, qui est plutôt en fin de vie qu'en début de vie. Donc, il a un problème de survie, ce patient-là. Donc, voilà. De toute façon, ce sont des risques qui sont en cours d'évaluation. Les traitements sur le glioblastome, ils ne sont pas encore là. Hein. Ils sont sur les souris pour l'instant. Donc, il y a encore un chemin. Donc, ce sont des espoirs. Hein. Ce sont des espoirs. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire que ces espoirs vont aller au bout. De toute façon, quand on développe un médicament, on a toujours en tête le fait de regarder la toxicité de ce qu'on fait. Et on regarde toujours le bénéfice-risque. Donc, il peut arriver à tout moment de l'avancée du projet une décision qui fait que c'est arrêté, le projet est arrêté, parce que justement ce bénéfice-risque est dans le sens du risque. Donc, on l'arrête. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire par rapport au cerveau. Alors, par rapport aux nanoparticules qu'on utilise, d'une manière générale, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on essaye de les faire éliminables par l'organisme, ce qui veut dire que quand elles ont délivré leur principe actif, on met tout en œuvre pour qu'elles puissent être éliminées par les cellules qui les ont reçues, et ceci sans causer elles-mêmes de dégâts. Donc ça veut dire que l'ensemble du système véhicule doit être complètement propre hein, au niveau de la sécurité. Il ne doit pas donner d'effet toxique.
Et jusqu'à présent, tout a réussi. Je parle de l'élimination. On ne sait pas si
chez un patient ou bien lors d'une expérience, ça n'a pas marché et que ça a causé d'autres choses plus graves que ce qu'on espérait guérir, je sais pas.
Bah, pour l'instant, c'est au niveau des produits qui sont sur le marché, on tente à augmenter les indications, c'est qu'a priori, c'est des choses qui marchent. Donc, ce sont des choses qui ont l'air d'être plutôt dans le sens bénéfice important par rapport au risque.
Merci.
Une dernière question, ça suscite beaucoup de questions, c'est que je suis contente.
J'ai juste une petite question. En fait, vous avez montré différentes formes de vecteurs, et notamment des nanocapsules, et c'est juste en fait pour savoir... comment le principe actif était finalement libéré une fois que notre nanocapsule avait trouvé sa cellule cancéreuse à traiter, par exemple?
Bah en fait, c'est beaucoup par le fait de la dégradation, l'emballage est dégradé, vous avez une libération du principe actif qui peut se faire par ce biais-là.
Donc ça sous-entend que si elle ne trouve pas sa cellule cancéreuse, elle peut se libérer à n'importe quel autre endroit, finalement?
C'est pas impossible. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Pour l'instant, les essais de ciblage, on n'a jamais 100% de ciblage pour l'instant. Donc, il y a quand même toujours... on essaye de favoriser le ciblage et la concentration du principe actif vers les cellules cibles, mais on a quand même toujours des distributions vers d'autres organes. On n'aura pas 100, enfin pour l'instant, on n'a pas 100% vers l'organe cible. Alors on arrive mieux à le faire quand on veut cibler le foie, parce que naturellement, beaucoup de choses vont dans le foie. Mais si on cherche à aller dans une tumeur, bon, on arrive à augmenter considérablement les concentrations qui vont dans la tumeur par rapport à pas de vecteur. Donc on va être plus efficace au niveau du traitement, mais on a quand même un petit peu qui va... dans des concentrations moindres, du coup, on peut espérer qu'elles soient aussi en dessous de la barre de la toxicité.
Merci.
En tout cas, merci beaucoup, Madame Vautier. C'était passionnant et très clair. Merci beaucoup. Donc, on prend 10 minutes de pause et puis nous recommençons donc à 15h10. À tout à l'heure.